Bien, merci Seigneur, oui, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous réunir encore ce jour. C'est un jour particulier encore parce que nous avons fêté Pâques, mais nous sommes en plein péchard à travers Israël. Et c'est quand on voit Israël qui a démarré l'année après Soukhot, qui était la dernière fête de l'Éternel. A démarré le 7 octobre sur cette réalité, j'irais, d'être sanguinaire, de combien l'ennemi s'était déchaîné sur ce pays, et qui marque un temps aussi pour les nations, c'est-à-dire qu'on sait qu'Israël est complètement connecté aux nations, et je veux dire que l'Église est aussi connectée aux nations. Donc nous devons regarder l'horloge d'Israël pour identifier maintenant qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et dans le péchard qui représente la première fête de l'Éternel, c'est une fête qui a démarré le 22, qui se termine le 30. Elle est intéressante parce que, bon, je regardais, finalement, quand on compte les jours, 22 jusqu'à 30, en comptant chaque journée, ça fait 9, le 9 qui appartient finalement à la conception des choses. Et donc, les Juifs fêtent la fête d'une manière de 2 jours pour démarrer, qui finalement représente ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire le passage de la mort qui passe au-dessus des maisons gardées par le sang qui garde les fils d'Israël. Et puis, deuxième partie, qui est les 2 derniers jours, qui est finalement la traversée de la mer Rouge. Et nous rentrons donc demain et après-demain dans cette traversée de la mer Rouge. Et la traversée de la mer Rouge, on voit bien que c'est un passage qui est particulier parce que ça, bien entendu, on se retrouve avec le passage à traverser de l'eau qui a touché et qui était complètement dans Moïse, sorti des eaux, et en même temps cette réalité de l'eau qui représente à la fois le baptême, mais qui représente aussi, j'allais dire, la conception. Parce que où est l'enfant qui est dans le sein de sa mère? Il est dans l'eau. Et bien avoir conscience que cette réalité de la conception qui est dans les choses que Dieu nous donne à travers les mamans, eh bien, c'est une réalité céleste qui se passe au niveau de la conception qui est dans la présence du Père, et cette conception dans laquelle cette eau, dans la séparation des eaux dans Genèse, il y a ces eaux d'en haut qui sont les eaux de la conception des choses que Dieu a prévues pour les temps qui sont là. Et donc, cette réalité de bien entendu du sang et de l'eau, bien, quand nous regardons la croix, nous souvenons que Jésus a été percé et qu'il a coulé du sang et de l'eau. Donc je crois qu'il faut vraiment considérer ce lien étroit que nous avons entre la Pâque que nous avons fêtée et la péchard dans laquelle nos frères juifs sont en train de fêter. Et continuer vraiment à identifier ce que Dieu est en train de faire, l'appel qui est sur l'Église, l'appel qui est sur nos cœurs, qui nous appelle à rentrer pour les nations, pour nos nations, pour notre nation, pour ceux qui sont autour de nous, à rentrer dans cette réalité de ce que Dieu veut accomplir. Donc ce sont des œuvres préparées d'avance, elles ont été conçues avant la fondation du monde, parce que rien n'est une surprise pour notre Père. Et dans toute chose qu'il a faite, donc on vient à ce passage en Jean 3. Ce qui est intéressant, c'est que le passage parlé de Jean 3 amène finalement une réalité qui est particulière. Quand on est dans le livre de Jean, nous ne sommes pas dans le livre de Matthieu, nous ne sommes pas dans le livre de Luc, nous ne sommes pas dans le livre de Marc. C'est-à-dire, quand on lit Matthieu ou Luc, nous sommes il y a de la chronologie. Et là, tout d'un coup, on est dans quelque chose qui est complètement différent. Et Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à travers le fait d'avoir des étapes qui sont mises? Est-ce que puisque nous ne sommes plus dans la chronologie, bien qu'elle soit bien entendu une marche de Jésus qui va aussi aller jusqu'à la bois de la croix, et puis, mais il y a une particularité, j'ai dit, dans les 6 premiers chapitres de Jean. On pourrait passer la deuxième slide. Et donc dans ces deux, je ne sais pas si vous arrivez à lire, parce que c'est bon. Dans ces 6 premiers chapitres, on voit qu'on est dans une réalité de processus. Et si je ne comprends pas, si je n'ai pas une lecture de comprendre, une clé qui est évidente, on va le lire avec Nicodème. Eh bien, Nicodème, il va dire, il va aller vers Jésus en disant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, nous sommes au chapitre 3, et le nombre de miracles que Jésus a fait, ils sont assez réduits. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un temps, j'allais dire, de chronologique. Hein, on est vraiment dans un montage de choses que Jean a compris et qui amène une réalité. Et cette réalité, elle commence bien entendu par Jean 1, qui est un parallèle, on le sait, c'est vraiment une relecture de Genèse 1, de la création. On y trouve d'ailleurs tout un processus pour comprendre en fait qui est Jésus, quelle est sa mission. Il y a cet appel aussi des disciples, et on voit aussi les jours. On arrive à compter les jours parce qu'il nous est dit « et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain » et on arrive au quatrième jour. Et le quatrième jour, c'est le jour avec Nathanaël. Et là, c'est un parallèle, j'allais dire, que Jésus va identifier au niveau de sa relation, de la relation avec le ciel et la terre dans sa réalité et dans laquelle il engage, puisqu'il y a autour de lui qui sont les personnes qui sont autour de lui, ce sont ses disciples. Donc il est en train de les éduquer, de les amener dans une réalité qui est la réalité de sa raison d'être et de ce qui les appelle à être. Et donc cette montée, j'allais dire, des services qui vont servir, ceux qui vont servir le Fils de l'homme, qui représente évidemment cette réalité du ciel et de la terre, eh bien, et qui représente aussi notre réalité, notre mission, eh bien, cette nous rappelle l'échelle de Jacob. Et l'échelle de Jacob, eh bien, évidemment, c'est une échelle qui est particulière parce que c'est Jacob qui va être. Elle se passe à un temps particulier pour Jacob. Il quitte sa maison, il quitte son père et sa mère, il quitte parce qu'il est en danger de mort. Et on sait que cet homme, il n'était pas prêt pour les choses de Dieu. Parce que c'est un homme qui finalement marchait selon les principes de sa mère. C'est-à-dire des principes qui étaient des principes de son oncle. C'est-à-dire de quelque chose qui était dans une famille qui était polythéiste et qui fonctionnait selon une économie de mammon. Hein, de chercher à voler, à prendre, à abuser, ainsi de suite. Une économie qui finalement n'était rien à voir avec le projet de Dieu. Donc il a fallu, pour protéger Jacob, il a fallu cette échelle qu'il aille à Bethel et qu'il soit dans cette échelle. De cette fameuse échelle, hein, j'allais dire, entre le ciel et la terre, avec ces anges qui montaient, qui descendent, et qui tout à fait l'économie de Dieu. Et quand il va comprendre ça, eh bien, il va se passer quelque chose d'extraordinaire avec Jacob. C'est vraiment, Jacob va donner, il va reconnaître que ce lieu est le Dieu de Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu, c'est un lieu de saint, et il va dire, je te donnerai la dîme de tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas donner quelque chose qu'il n'avait pas, puisqu'il est parti les mains dans les poches, il est parti avec juste de l'huile, et finalement, il se retrouve face à cette économie, comme son grand-père l'avait vécu, avec Melchisedec, et dans cette économie qu'il rencontre, eh bien, il va s'engager, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc on voit qu'il y a un lien étroit entre cette réalité. La deuxième réalité dans laquelle on va rentrer, c'est justement le septième jour, parce que c'est le quatrième jour avec Nathanaël, et trois jours plus tard, il y eut une noce à Cana. Alors là, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, parce qu'à la lecture, souvent, j'ai tellement été, embarqué par une réalité qui est dans nos traductions, que finalement c'était le miracle de Jésus. Et en fait, il est plus grand que ça. Bien sûr que c'est le miracle de Jésus, mais Chouraki nous dit que c'est le réchit, c'est-à-dire le commencement, et nous ramène bien entendu au commencement qui est dans le premier verset de Jean 1. Et donc dans ce commencement, le commencement des choses que Jésus fait, eh bien, il amène ses disciples finalement à vivre une réalité de travailler en équipe avec la Trinité. Et ça, c'est quelque chose qui va être marquant. Et qu'est-ce qui va sortir de là ? Il va sortir le vin céleste. Donc, on va retrouver d'ailleurs le sixième, en Jean 6, justement, un autre travail en équipe avec la Trinité, où il va mettre en œuvre à la fois, non seulement comme à Cana, non seulement il va utiliser ses disciples, mais en plus, il va utiliser encore d'autres qui n'ont rien à voir, qui finalement ne sont pas ses disciples. Autant que ça va être les serviteurs et que ça va être l'ordinateur des noces dans Cana, autant ça va être cet enfant qui avait ses cinq pains et deux poissons. Et donc, c'est une réalité que Dieu, là, il est en train d'éduquer. Il faut comprendre ça, que nous sommes dans un schéma, un chemin. On ne va pas passer tout le temps, parce qu'on pourrait rester là-dessus. Je trouve ça extraordinaire de voir comment Jésus est en train d'éduquer ses disciples et en train de les former. Et si on regarde bien dans Jean 6, eh bien, si je reprends ce qui se passe au niveau de la multiplication des pains, dans Matthieu, dans Luc, il est dit, donnez-leur vous-même à manger, ce qui n'existe pas dans Jean. C'est-à-dire que Jésus n'est pas dans la même situation qui est décrite dans Matthieu et dans Luc, il est réellement dans une pédagogie. Il est en train de faire un enseignement, et nous devons apprendre cet enseignement. Parce que si nous restons dans une culture, finalement, de l'homme qui fait le miracle, alors que le maître est en train de nous éduquer dans un travail d'équipe, à la fois communautaire et avec la Trinité, eh bien nous ratons finalement ce que Jésus est en train de nous enseigner. Je souffre de ça, je vous assure, dans les organisations. Je souffre de ça dans les églises. Je souffre de ça dans les entreprises. De ne pas voir le travail, la pédagogie de notre Seigneur qui nous amène à comprendre qu'il veut nous faire travailler à la fois dans une économie verticale du donner pour donner et d'une économie horizontale du donner et recevoir. Et nous devons, dans ce principe-là, établir la réalité de la croix qui est finalement là où tout est accompli et là où notre Seigneur représente toute l'économie de Dieu. L'économie de Dieu, ce n'est pas l'argent. L'économie de Dieu, ce n'est pas l'avoir. L'économie, c'est Christ. L'économie de Dieu, c'est Christ lui-même. En lui, nous avons tout pleinement. Donc, nous sommes dans cette... Nous arrivons, bien entendu, après, avec ce vin céleste, eh bien, il y a le temple, la purification du temple. Et Jésus continue, il va rencontrer Nicodème, on va revenir dessus après. Et dans Jean 4, qui va suivre... Eh bien, on va avoir cette rencontre avec la Samaritaine. Incroyable! La Samaritaine. Il la rencontre où? À Sichem. Qui est-ce qui est enterré à Sichem? Joseph. Sur ce terrain où Joseph est enterré, eh bien, il va proclamer quoi? Sa messianité. Waouh! Moi, quand je lis la parole et que le Seigneur me montre des choses comme ça, je trouve ça incroyable. Je dis, Seigneur, quelle logique. Là, il va dire sa messianité. À qui? À une Samaritaine. Et qu'est-ce qu'il va annoncer? Qu'est-ce qu'il va amener? Cette notion de l'eau. De l'eau et de l'esprit. Il va finalement continuer ce qu'il a donné à Nicodème. Il va continuer à nous décoder les choses à travers la Samaritaine. Et il va, bien entendu, parler de cette unité qu'il fait, qu'il y a dans le un avec le Fils, le Père avec le Fils, la Trinité, tout ça. Et il va aussi continuer avec dans un passage qui nous revient et qui nous ramène de nouveau à Cana. Cana, le septième jour était caché, mais là, un Cana qui va se passer, le septième heure est complètement révélé. C'est la guérison, finalement, du fils de l'officier du roi. Et la guérison, ce jeune qui est aux portes de la mort, où le père vient intercéder pour son fils, eh bien, il guérit le fils, et quand le père rentre, il dit « À quelle heure les choses sont passées ?» À la septième heure, on lui dit. Donc vous voyez, cette réalité au niveau du timing de Dieu qui nous révèle aussi à travers le 7, qui est le septième jour, qui est là dans la création, c'est là où Dieu s'arrête. On a vu que le septième jour était relié à Cana, aux noces. Là, on s'aperçoit que c'est un lieu de guérison. C'est un jour de guérison. C'est un jour de réconciliation. Ensuite, ben, il va y avoir, bien entendu, Bethesda. Bethesda, c'est quoi? Ben, c'est la maison de la grâce, de la miséricorde. Waouh! Incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a un homme, ça fait 38 ans, qui ne peut pas aller dans cette piscine. Ou quand il y va, c'est trop tard. Puisque c'est quand l'ange intervient, c'est les premiers qui sont servis. Donc 38 ans qu'il est en train de quêter. Ces 38 ans correspondent à quoi? Si on va dans la parole, dans Deutéronome 16, 17, il est parlé justement des 38 ans. Et 38 ans, c'est le temps d'errance d'Israël à l'intérieur dans le désert. Les 38 ans, c'est le temps qui était nécessaire pour l'application du décret sur les anciens, sur ceux qui avaient plus de 20 ans, de ne pas pouvoir rentrer dans la terre promise à cause de ce qui s'est passé avec le veau d'or. 38 ans de silence de l'Éternel. 38 ans qui sont rappelés ici à Bethesda, dans cette piscine. Et Jésus va annoncer maintenant la libération. La libération de qui ? À la fois de celui qui est malade depuis 38 ans, mais la libération d'Israël. Donc on a cette réalité qui est là, et il va continuer d'ailleurs, en parlant de la relation du Père avec le Fils. Donc il démontre là, à travers ce texte, que finalement il y a tout un travail relationnel qui va produire quoi ? Le Père et le Fils produisent la pierre de construction. La pierre que rejetaient ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre de construction qui est le Père et le Fils. Donc cette réalité-là, elle va continuer avec Jean 6, donc on a parlé, ce pain céleste. Et qu'est-ce qu'on va ramasser ? 12 paniers. 12 paniers. Ça continue. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à Bethesda devient finalement la traduction. Moi, ce que j'aime avec Jésus, il annonce les choses, il montre des fois une incapacité. Prenons l'exemple, jeune homme riche, catastrophe. Ce jeune homme, il veut absolument avoir ce que Jésus a. Il veut rentrer dans ce royaume. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il discute, puis à la fin, il dit, écoute, plus simple, tu vends tout ce que tu as. Tu distribues aux pauvres, viens et suis-moi. Et il dit que finalement, ce jeune homme s'en alla. Parce qu'il était tellement accaparé par ce qui le tenait, c'est-à-dire Mammon avait tellement de présence, de force en lui, et bien qu'il n'a pas pu suivre le maître, il n'a pas pu répondre à l'appel. Et Jésus, eh bien, il était dans une émotion par rapport à cet homme. Il ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas condamné. Et après, la question qui est dit, pourquoi ? Parce qu'il a dit, il est difficile aux riches de rentrer dans le royaume. Si je suis riche de quelque chose qui n'est pas ce qui est les valeurs et les principes de Dieu et du Fils, du Père et du Fils, je ne peux pas rentrer dans le royaume. Voilà, et donc, ce jeune homme riche, là, les disciples qui le suivent, ils me disent, mais qui peut rentrer ? Parce qu'ils se rendent bien compte que de toute façon, on est tous riches de quelque chose, pas forcément d'argent, mais des fois de nous-mêmes. D'être complètement en train de nous regarder, nous. Moi, ça m'arrive. Pendant des années, longtemps, et le Seigneur a pu me libérer de ça, mais ça revient. Donc je suis repris par l'Esprit qui est là, qui dit, oh Pierre, reviens. Et qu'est-ce qui va se passer après, puisque les apôtres vont dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, Jésus va rencontrer Zachée. Et Zachée est une démonstration que finalement, les hommes riches peuvent rentrer dans le royaume. Parce que Zachée exerçait la justice en rendant finalement ce qu'il avait pris de manière injuste à un niveau au-delà de ce que la loi lui demandait. Donc il avait cet esprit de miséricorde, de restitution qui l'animait et qui a fait dire à Jésus, celui-là est réellement un fils d'Abraham. Donc, nous partageons cela. Et nous allons voir maintenant, j'allais dire, ce passage dans Jean 3. Il est dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est vrai, Seigneur. Et vous ne recevez pas notre témoignage. C'est vrai aussi, Seigneur. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Fils de l'homme, on l'a vu tout à l'heure, Nathanaël. Nous sommes là dans une réalité où finalement, ben Jésus, celui qui parle à Nicodème, c'est Yeshua. Et là, il vient rencontrer Nicodème pour lui dire, mais qui a dit, nous savons que tu es docteur. Donc il y a quelque chose que Nicodème a saisi. D'ailleurs, c'est un homme, Nicodème, qu'on va retrouver deux autres fois dans la parole. C'est lui qui va essayer de sauver Jésus devant le Sanhédrin. Et c'est lui qui va porter finalement de quoi mettre des produits pour le tombeau, hein, après la mort de Jésus. Tu es docteur d'Israël, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et ce Yeshua, il aurait pu se dire, mais finalement j'ai Yeshua. Ça me parle Yeshua, je suis docteur de la loi, j'ai une connaissance de la loi. Parce que Yeshua, c'est aussi le même nom que Yehoshua. Et Yehoshua, qui est-ce ? Josué. C'est le même nom, c'est une contraction de Yehoshua. C'est-à-dire que nous sommes avec cet homme Josué, dont le nom a été changé par Moïse, avant, en nombre 13, avant qu'il aille avec Caleb et les 10 autres chefs. Chefs, ce n'est pas des n'importe qui, c'était des chefs, des tribus, pour aller dans cette terre promise en temps, pour voir, pour espionner, pour regarder ce qui se passait. On les appelle les 12 espions. Et avant de partir, Moïse lui a changé son nom. Il s'appelait Osée, c'est-à-dire Oshua, en hébreu, et il lui a mis une lettre divine dans son nom pour l'appeler Yehoshua. Et ce n'est pas une lettre par hasard, parce que cette lettre, c'est la lettre de Yahvé, hein, Yod, E, Vav, E, les quatre lettres. Donc il a pris la première lettre et il l'a mis dans le nom de cette. Donc il y avait quelque chose, en tant que mission, on voit bien qu'on est en train de changer le nom de cet homme qui est fils de Noun, c'est-à-dire de la descendance d'Éphraïm, et qui est rattaché à qui ? C'est-à-dire fils d'Éphraïm, c'est le fils de Joseph. Donc, enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais on est vraiment dans un schéma. Moi, j'aime ce qui me passionne dans la parole, c'est de pouvoir choper quelque chose, d'aller chercher, et de voir qu'on rentre dans un autre domaine, un autre niveau, qui est Joseph. Joseph, on sait qu'il est relié aussi au pain. Mais il est relié à un autre niveau qui est finalement d'amener la réforme dans ce pays de l'Égypte pour le rendre possible, pour rendre possible que ce pays puisse accueillir les Hébreux. Parce qu'autrement, les Hébreux étaient rejetés. Et ça a permis, pendant, j'allais dire, pratiquement quatre siècles, à cette famille de devenir un peuple. Ça va ? Hein ? Un jour, je vous raconterai Joseph. Comment Joseph est devenu un réformateur, parce qu'on a toujours ce regard d'un Joseph qui est simplement un nourricier. Mais il a cette réalité de pouvoir faire rentrer sa famille, la famille de Jacob, hein, dans ce pays d'Égypte. Josué, qui finalement s'appelle, entre Oshua s'appelle finalement salut, et Yehoshua, c'est l'Éternel est mon salut, l'Éternel est le salut. Donc on a ce nom qui est là, qui est un nom de mission, mais un nom aussi, je veux dire, où repose l'autorité de celui qui tient toute chose dans sa main. Donc il y a une... Waouh, Seigneur! dans nos vies, nous avons le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, qui a toute autorité et qui nous tient dans sa main. Comprenez ça? On est en train de parler de gens qui ont été missionnés avec une autorité, avec une sécurité. La présence de Dieu qui figure dans leur nom. Et donc, l'Éternel est salut. Il va apporter quoi, Josué? Il va amener ce peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte dans la terre promise. Joseph l'avait amené, la famille, en Égypte, en sécurité, dans un lieu à Goshen, où Dieu avait préparé ça avant la fondation du monde. Et là, Josué l'amène dans la terre promise. Et le Yeshua, qui est le même nom que Yehoshua, amène les enfants que Dieu lui donne dans le royaume. Vous voyez la logique des noms, la mission qui s'amplifie au fur et à mesure que finalement le royaume avance. Donc on est dans cette Josué, fils de Noun, ainsi de suite, qu'on a vu. Et donc ce Yeshua qui est en face de Nicodème, qui le relie à Yeshua, donc à Ephraïm, à Joseph, et donc à Jacob et Israël. Donc, c'est pour ça que Jésus se permet de lui dire, mais comment ça, toi, tu es un docteur d'Israël? Et tu ne sais pas ces choses-là? Alors que finalement, la parole, il la ramène finalement à la base, la construction de ce peuple, de cette réalité, de cette nation. Et donc, Jacob, Israël. Et là, on voit bien que tout de suite, quand on parle de Jacob, Israël, il y a un changement de nom aussi. Vous savez, quand il y a un changement de nom, il y a un changement d'autorité, surtout quand c'est le Seigneur. Mais ce qui est beau dans la parole, et surtout dans ces temps d'hébreu et autres, c'est que le nom, il avait un sens. Aujourd'hui, le prénom, il n'a pas grand-chose, des fois, à voir. On prend des prénoms qui sont à la mode. Mais je peux recevoir un prénom de Dieu. Nous avons reçu avec Josette les prénoms pour nos enfants. Ça veut dire que chaque fois qu'on parle du prénom que porte, que ce soit Clément, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Pierre-Antoine, que ce soit Emmanuel, que ce soit Joseph, que ce soit Déborah, il y a chaque fois qu'on prononce le nom, ou qu'on prie pour eux, vient finalement ce que Dieu nous a donné au moment où il nous a donné le nom. C'est la même chose. C'est la même chose dans cette parole. Et Jacob, donc bien sûr, le nom est souvent associé à menteur, supplanteur, rusé, parce qu'on se souvient finalement des stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir récupérer quelque chose qui lui avait été donné, qu'il avait acheté, avec un plat de lentilles. Mais n'empêche qu'Ésaü lui avait vendu ça. Et donc il avait des droits dessus. C'est la méthode qui n'était pas bonne, que Dieu n'apprécie pas. Mais, je veux dire, le droit, il était donné à Jacob. Et le nom de Jacob veut dire le talon. Hein. Et donc cet homme, il va passer par Bethel, on l'a vu tout à l'heure, il va avoir la révélation de l'économie de Dieu, et dans cette économie, bien entendu, il va être dans une révélation qui va finalement le reconstruire et qui lui permettra de tenir face à l'économie de Mammon que son oncle est en train de mettre, enfin, dans laquelle son oncle vit. Et fait vivre son entreprise. On connaît toute l'histoire. Hein. Et il va se passer une deuxième chose. Au retour, quand il va revenir, avant de rencontrer Ésaü, son frère est toujours dans une volonté de le détruire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là aussi, à Péniel, il va vivre un changement de nom. Il va vivre une nouvelle naissance. Il va recevoir ce nom d'Israël. Israël qui est finalement le Dieu qui prévaut sur toute chose. C'est-à-dire, on voit bien que jusque-là, il fonctionnait avec ses propres forces. Mais là, maintenant, il a fonctionné avec un autre niveau, c'est-à-dire où Dieu prévaut, c'est-à-dire une autorité qui lui permettra de bâtir, de construire et d'amener finalement la réalité du peuple d'Israël qui va amener cette nation d'Israël. Et on voit bien que ce nom, il a une particularité. Si l'on prend des cortiques, les quatre lettres du nom sont les premières lettres des quatre fils, des quatre premiers fils de Léa. Et il va rajouter, Dieu va rajouter une lettre qui est intéressante, parce que là, il ne rajoute pas une lettre qui appartient, le « et », qui appartient à, je vais dire, à l'Éternel. Il va rajouter une lettre qui appartient à Elohim. Il va mettre la première lettre. Et la première lettre, ben, c'est l'Aleph. C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer que finalement, en mettant cette lettre, le nom qu'il donne à Jacob, ce nouveau nom, c'est un nom qui existe avant la fondation du monde. Parce que la fondation du monde, c'est Bereshit, ça commence par le Bet, c'est la maison, ok, mais c'est la deuxième lettre. Toute la conception avant se passe dans le ciel. Donc, j'espère que ça va. Comment ? Je reviens, oui, je vais revenir. Non, parce qu'il faut comprendre ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec l'histoire de Jacob ? C'est qu'on est bien entendu... On voit que Jacob a été équipé. Or, Jacob, il va se tomber dans quelque chose qui s'appelle le Mimi. Le Mimi. C'est-à-dire qu'il est mi-Jacob, mi-Israël. Il va vivre comme ça. Est-ce que nous ne sommes pas chrétiens, des fois, en étant Mimi ? Mi-sauvé, mi-toujours encore dans notre façon de comporter. Mi-finalement dans le royaume, mi-dans le mammon. Mi-dans une culture, et ça, on va le voir rapidement maintenant, avec la slide suivante, par rapport à Abraham, je vais faire vite, mais c'est important de voir ça. C'est qu'il va se passer ici, vous voyez, les Genèse 17, 18, 19, 20, 21, 22, le parcours d'Abraham est un parcours exceptionnel, parce qu'il nous conduit de Genèse 12 à Genèse 22, dans une réalité d'un homme qui n'était pas du tout capable, qui était appelé, mais qui n'était pas capable de remplir la mission. Ce n'est pas notre réalité quand Dieu nous appelle. Nous avons besoin d'être reconstruits. Et Abraham, finalement, il va être reconstruit par Dieu. Donc je passe les 16 premiers, et ce qui est intéressant de 12 à 16, eh bien, c'est qu'on n'a qu'un interlocuteur au niveau d'Abraham, c'est l'Éternel. Dieu, Elohim, n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il se protège par rapport. Elohim représente le Dieu de ses pères, c'est-à-dire le Dieu de ses pères, le polythéisme. Donc il se garde parce que lui, il est aligné avec le Dieu unique, l'Éternel. Et on voit que Dieu, il faut qu'il le fasse rentrer dans une logique de complétude, c'est-à-dire qu'il est à la fois l'Éternel Dieu, il n'est pas simplement l'Éternel, il n'est pas simplement Elohim, il est l'Éternel Dieu, il est Yahvé Adonai Elohim. Et donc on voit que on pourra reprendre ça une autre fois, mais je veux dire simplement que Abraham va passer par trois naissances. La première naissance en Genèse 17, changement de nom. Elohim va lui donner un nom particulier. Abraham devient le père élevé devient le père d'une multitude de nations. En mettant quoi ? En mettant une lettre, un « et » de Yahvé, la lettre qui est au milieu, il la met au milieu du nom d'Abraham. Et puis il prend la dernière lettre du nom de Yahvé, le « et », et il le met à la fin du nom de Sarai. Et il rétablit quelque chose qui va se passer, qui nous ramène où ? Qui nous ramène en Genèse 2. La capacité finalement de séparation, l'homme quittera son père et sa mère, et avec sa femme, il deviendra une seule chair. Donc on voit que cette séparation, Dieu vient à travers sa lettre de pouvoir le réaliser. Peut-il le faire et produire cette unité ? Oui, mais il manque quelque chose de fort, c'est la capacité. Il faut nettoyer la place. Comme Jésus va nettoyer le temple, là il faut nettoyer la place. Parce que la place, elle est remplie de quoi ? De l'économie de Mammon et l'économie de l'Égypte. Est-ce que dans nos cœurs, nous avons une place nettoyée par rapport aux choses du royaume ? Ou est-ce que je suis toujours en train de fonctionner selon une économie de Mammon, une économie de l'Égypte ? Et c'est là où Dieu va intervenir avec Abimélec, de faire revivre Abraham et Sarah ce qu'ils ont vécu en Égypte avec Pharaon. Et là, ce n'est plus Abraham qui conduit, là, c'est Elohim qui conduit. Et il va ramener, on pourra l'expliquer une prochaine fois, je prends rendez-vous, pour cette réalité magnifique de ce qui se passe dans la vie. Et après cet espace, où Dieu va même dire à Abimélec, qui est sous la condamnation, eh bien, il va lui dire, Abraham, cet homme va venir, c'est un prophète, et il va venir prier pour toi, et tu seras libéré. Et c'est ce qui va se passer. Et quand on regarde la vie d'Abraham, c'est une vie prophétique, annonciatrice de tout. Enfin bon, royauté, sacrificature, et dedans, ainsi de suite, il y a plein de choses. Donc on verra ça une prochaine fois, si vous voulez. Hein ? Parce que c'est un régal pour moi de vivre ça, je veux dire, dans cette lecture, et de voir finalement ces hommes, notre père Abraham, ce que Dieu a fait pour finalement amener la réalité que nous vivons aujourd'hui. Il fallait qu'il soit propre à recevoir, je veux dire, la destinée. Donc il fallait nettoyer. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce nettoyage de l'Égypte, l'Égypte qui sort ? Évidemment, Abraham et Sarah deviennent chacun un couple selon le cœur d'Élohim, selon le cœur du Père. Et ils vont donner, chapitre 21, l'enfant de la promesse. La connexion avec l'Égypte avait donné l'enfant de l'Égypte, l'enfant de l'Égyptienne. Parce que l'Égypte était rentrée dans la maison d'Abraham, était rentrée dans son épouse, était rentrée de nouveau dans son neveu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est fini pour Dieu ? Non, Dieu est avec un plan, et nous savons qu'il est sur ce plan de la famille. Il est directement dans le slogan que il est dit, que nous disait Philippe, le slogan de l'Église, cette famille. Eh bien, la construction de la famille va passer par, justement, Genèse 22. Genèse 22, c'est quoi ? On dit, ouais, c'est le sacrifice d'Isaac, que nenni. On peut parler, comme les Juifs, de ligature d'Israël, parce que c'est le sacrifice du Père. C'est le sacrifice de la conception du Père qu'avait Abraham à travers Terak, à travers son Père, à travers ses Pères, qui finalement mettait en place un schéma de paternité qui était vraiment une autorité qui n'était pas l'autorité de Dieu. Il fallait que Dieu amène la réalité de son cœur, de Père, dans le cœur d'Abraham. Donc il lui donne de sacrifier, il l'arrête, et il lui donne de sacrifier quoi ? Un bélier, et non pas un agneau. C'est-à-dire un père, et non pas un fils. Vous voyez ? Et à travers cela, Abraham comprend que là, Dieu est en train de venir échanger sa métanoïa. Et l'amener, finalement, à la fin de Genèse 22, il devient réellement un père, une mère, selon le cœur d'Élohim, c'est-à-dire une famille selon le cœur d'Élohim. Voilà. Donc j'en viens maintenant de nouveau à notre réalité de Jean 3. Il est dit, Jésus dit, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Donc on vient de voir toutes ces naissances à travers, je veux dire, Jacob, à travers Josué, à travers Abraham. On a compris que finalement, ce schéma, il fallait vraiment qu'on passe par différentes étapes. Un Abraham qui était dans le mimi avant, c'est-à-dire qui considérait sa femme comme moitié sa sœur, moitié sa femme, son épouse, qu'il arrangeait en fonction des situations. Ça m'arrange, eh bien, ma foi, tu es mon épouse. Par contre, je suis en difficulté, ben, tu es ma sœur. Et c'est comme ça que l'Égypte rentre dans la maison. On voit bien que ce n'est pas ça que Dieu fait. Dieu ne peut pas marcher avec le mimi. Dieu nous appelle, finalement, à rentrer, à aller plus loin. D'où cette expression de Jésus, il faut naître de nouveau pour voir. Le voir doit me donner envie de rentrer. Le voir doit me donner... Moi, souvent, quand j'ai eu ce passage, ça fait quelques années en arrière, j'ai vu la vitrine. Vous savez, l'enfant qui est derrière la vitrine, c'est Noël ou avant Noël. Et puis, regarde tous les cadeaux, le train électrique. En plus, quand j'étais gamin, c'était le train électrique. Maintenant, c'est autre chose. Mais à l'époque, on passait devant les boutiques des commerçants de jouets. Il y avait le train électrique qui faisait des trucs avec des... Waouh ! Et je ne pouvais pas rentrer. Et je ne pouvais pas acheter. Mais je pouvais voir. Et je rêvais quoi ? D'avoir. De pouvoir faire, d'entrer, de vivre, de regarder, d'aller... Voilà. Eh bien, c'est ça que Jésus nous dit derrière à Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. C'est-à-dire que je dois naître quelque chose, comme on l'a vu, à travers ce passage de la mer Rouge. Je dois vivre, non seulement c'est la mer Rouge, mais une deuxième mer qui est le Jourdain. On a travaillé là-dessus avec le Jourdain. Le Seigneur nous a amené à visualiser, à comprendre tout ce schéma du Jourdain et de rentrer dans cette terre promise. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis réellement dans cette réalité d'être un fils, une fille, mais pas la conception, ma conception? Vous savez, moi, ce qui m'a toujours, quand le Seigneur, je me suis vraiment repenti quand le Seigneur m'a montré, il m'a dit, Pierre, j'ai un problème avec toi. C'est que tu as une conception de moi. Et que tu ne sais pas, quand tu as une conception de moi qui n'est pas moi, que tu es en train de faire une idole. Tu es en train de servir qui, là? Et j'aime bien les rencontres. Vous savez, le Seigneur, il a une particularité, on pourrait passer aussi beaucoup de temps à identifier comment Dieu travaille. Mais il a un principe extraordinaire qui est donné en Christ, c'est-à-dire que Jésus est venu nous rejoindre. Il nous a amenés, comment? Par son esprit, il nous a amenés dans notre réalité. Dans cette réalité, quand nous l'avons vue, vécue, nous avons compris, nous étions en faute, et nous avons demandé pardon à Dieu, et nous sommes repentis, et nous avons accepté, et nous avons reconnu le Fils, et à travers son sacrifice. Et c'est ce qui a permis, c'est ce chemin, Dieu vient à notre rencontre. Il vient nous voir, il vient nous mettre dans la réalité dans laquelle nous sommes, et après il nous emmène avec lui pour nous amener dans sa réalité. Est-ce que j'accepte dans ces temps, dans ce travail de l'esprit dans ma vie, il faut que je naisse d'eau et d'esprit, il faut que je naisse de la parole, il faut que je naisse finalement de la matrice de céleste dans cette réalité. Et peut-être il faut que je révise de nouveau le baptême que j'ai vécu. Est-ce que j'ai fait un baptême simplement qui était de confession, un baptême de proclamation, ou un baptême qui était vraiment une renaissance, de naître d'en haut, de vivre, de rentrer, de pouvoir recevoir cette réalité céleste qui était pour ma vie. Avant la fondation du monde, j'étais devant la présence de Dieu et Dieu a décidé de libérer Pierre. Et en disant, maintenant c'est ton temps, et c'est ton temps parce que je vais te missionner, parce que je t'appelle à servir là où je te place. Je t'appelle à être un sacrificateur, je t'appelle à être dans une royauté, c'est-à-dire de porter vraiment, de réformer les situations, les territoires que je te confie. C'est ce qu'il nous donne à chacun. Et je veux rentrer. Et je vais rentrer par l'esprit. Et je vais rentrer par la parole. Et je vais rentrer par l'esprit parce que l'esprit, cadeau du Père, cadeau du Père, son esprit tabernacle dans tout mon être, corps, âme, esprit. Est-ce que je réclame simplement la guérison physique ou je réclame la guérison corps, âme, esprit? Amen. Afin que je ne retombe pas, que je ne rechute pas. Il faut que tout mon être soit dans une métanoïa. Il faut que tout mon être soit régénéré avec les principes du royaume. Il faut que la vie de Christ s'épanouisse. Il faut qu'il croisse et que je diminue, nous dit Jean-Baptiste. Et il faut vivre de sa présence. Il est le rocher et lui me nourrit de l'intérieur. Et il permet qu'à travers ce rocher, vous vous rendez compte, le nombre de mètres cubes qui sortaient tous les jours de ce rocher pour nourrir des millions de personnes et de millions d'animaux. Tous les jours, il fallait que l'eau soit déversée pour qu'il puisse s'abreuver. Plus la cuisine à faire. Il faut que je naisse de nouveau à cela. Il faut que je naisse d'eau et d'esprit. Il faut que je naisse en tant que fils, mais pas en tant que fils isolé, simplement en train de récupérer les bonnes choses par rapport à ma convoitise. Non, je dois naître ce que j'appelle de fils, fils, fille, fils, parce que je ne peux rentrer, dans la présence du Père que par le Fils. Que par le souverain sacrificateur. Je ne rentre pas par moi-même. Le sacrificateur ne pouvait pas rentrer. Sauf le souverain sacrificateur. Et la réalité de ce que Dieu a accompli, Jésus a accompli, c'est une réalité de pouvoir, de vivre en moi et moi en lui. Tu peux vivre, tu vis en Christ et Christ vit en toi. C'est-à-dire, c'est une, quand Jésus monte dans les lieux célestes, dans la présence du Père, je suis embarqué avec lui. Nous sommes embarqués avec lui. Nous avons ici à comprendre ce soir, ou pardon, ce soir ou ce matin, nous avons à comprendre que le Seigneur est en train de travailler individuellement au niveau des couples, restauration des couples. Qu'est-ce que c'est qu'un couple selon le cœur d'Élohim ? Je vous assure, moi je chéris cela. Chaque fois que le Seigneur est en train de me bouleverser dans une attitude, enfin, je ne vais pas m'attarder, mais... Moi, je suis gardé, j'ai deux gardiens, le Saint-Esprit, ma femme.
Amen, ouais. C'est pareil.
Pareil, hein. Donc, on va faire un club, les hommes. Hein. Donc, voilà, c'est cette réalité qui est là et qui. De sentir en nous, vous savez, la présence de Dieu, on la sent. Où est l'intelligence ? Elle est là, l'intelligence ? Elle est là, l'intelligence. Au niveau de la conception, au niveau de ce que Dieu nous donne, qui travaille nos entrailles, quand ce soit pour celui qui est malheureux, pour celui, pour même quand on est dans la joie, c'est là que ça se passe. Eh bien, la conception, nous devons la recevoir, nous les hommes. Les femmes, la raviver. Il ne faut pas que ça s'arrête simplement à donner naissance à des enfants, mais il faut porter les projets de l'Éternel. Il faut vivre la relation. Et dans cette relation, je veux dire, il y a quelque chose qui est là, et bien ce sont les plans de Dieu qui se mettent en place. Et Jésus peut se magnifier. Et Jésus peut finalement établir ce qu'il est au niveau de mon cœur pour amener la gouvernance de la Trinité. C'est cela, la nouvelle naissance que Dieu a prévue pour nous. Ne restons pas dans le vouloir. Laissons, et nous ne pouvons pas entrer par nous-mêmes, nous rentrons par la réalité, l'activité de l'esprit de vie et de résurrection qui est en nous. L'esprit de la liberté qui nous amène dans la liberté en Christ et qui permet surtout à Christ d'avoir totale liberté en nous de façon à accomplir la volonté du Père, qui est bonne, agréable et parfaite. Et nous nous réjouissons de nous nourrir d'obéir, de faire la volonté du Père. Et quand nous sommes dans cette situation-là, je vous assure, et nous le savons, mais je le répète, chaque fois que nous sommes dans cette situation d'obéissance, il y a quelque chose qui est bon, il y a la joie qui est en nous. Il y a quelque chose qui est bon, nous sommes dans le repos. Il n'y a pas de burn-out dans le royaume. Il n'y a pas de burn-out dans le royaume. Nous te rendons grâce, Père. Donc nous allons prendre la Sainte Cène, que vraiment... Tout ce parcours qu'on vient de faire nous amène à reconsidérer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, sans laquelle nous ne pourrions pas dire ce que nous avons dit. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Je veux, Seigneur, rentrer dans ta volonté. Qui est ta volonté, que je sois fils, que je sois fille, parce que tu veux te réjouir dans ma présence. Tu veux te réjouir, mais pas dans une présence charnelle. Tu veux te présenter dans la présence du Fils. Et tu veux travailler avec le Fils, parce que tu veux accomplir, tu veux construire, tu veux bâtir, tu veux élever, tu veux avancer, tu veux faire croître, tu veux donner la joie, Seigneur, partout. Dans cette, parce que toi, ce qui t'intéresse, Seigneur, c'est toute ta création. Tu n'es pas limité à des quelques-uns, à un reste dont ton amour a été pour tous. Et nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, Père, quelle joie de pouvoir partager, Seigneur, toutes ces choses. Quelle joie.